France Musique.
Il a plus d'une corde à son violon, Julien Chauvin, bonjour.
Bonjour.
Violoniste et directeur musical du Concert de la Loge, mais il y a aussi le Quatuor, Cambini, Paris, puis on va évoquer beaucoup de choses. Deux nouveaux disques, quasiment simultanément, la suite de votre exploration des symphonies parisiennes de Haydn, et puis un disque qui paraît tout prochainement, Beethoven et Reicha, tous deux nés en 1770. On va aussi fêter les 250 ans de la naissance de Reicha, un disque intitulé Symphonie de salon. Vous enregistrez parfois, j'ai l'impression, à un rythme frénétique. Le disque n'est donc pas totalement mort.
C'est vrai que cette année, c'était une année assez exceptionnelle, parce qu'il y a d'autres disques d'ailleurs qui vont sortir bientôt à la rentrée. Mais
Vivaldi.
Oui, c'est un disque Vivaldi, mais en effet, le disque n'est pas mort, surtout que si on le considère, en fait, pas comme uniquement comme un objet sonore, mais aussi comme un objet de connaissance qu'on peut enrichir avec un livret détaillé en faisant appel à de nombreux historiens, musicologues, écrivains. Et il me semble en effet que vous le disiez, il y a 15 ans, on disait que la chute du disque était prévisible et irréversible. Et en fait, finalement, je pense qu'il y a quand même un intérêt des auditeurs pour ce petit objet carré qui emmène quand même dans un voilà les auditeurs dans une autre dimension.
Mais qui s'écoute, qui se mot horrible consomme d'une façon différente qu'il y a 15 ans. Il y a aussi des plages, alors là il y a les symphonies de Haydn, mais aussi des petites plages qu'on écoute en streaming, de cette façon-là.
Et puis c'est des choses qui s'offrent. C'est un objet. On l'achète pour soi aussi, bien sûr, mais c'est une chose qui doit se partager.
Alors sur ce disque Haydn, il est bien vivant ce disque. Voici le final de la 87e symphonie. Tiens, elle a un sous-titre, L'impatiente. le final de la 87e symphonie de Joseph Haydn, le concert de la Loge dirigé par notre invité ce matin sur France Musique, Julien Chauvin. C'est un extrait de ce dernier disque qui paraît chez Aparté, votre label qui vous soutient dans cet enregistrement des symphonies parisiennes de Haydn. Vous nous rappelez les symphonies parisiennes, qu'est-ce que c'est ?
Les symphonies parisiennes, c'est déjà, il n'y a pas mieux pour se réveiller, il me semble. Et c'est une commande de cet orchestre, hein, le concert de la Loge Olympique. On est en 1783. La figure de Haydn est omniprésente à Paris depuis les années 1770, donc depuis déjà 12-13 ans. Et les fondateurs de cet orchestre, nouvellement créé à Paris, commandent à Haydn une série de 6 symphonies. Et Haydn va les livrer en 2x3 symphonies, en 85 et puis après en 87. Elles vont être jouées, elles vont être éditées aux Tuileries. Et évidemment, sur ces 6 symphonies, 3 vont avoir des noms et 3 vont être sans nom.
Et donc, celle-ci n'a pas de nom, mais vous lui avez trouvé un nom.
Absolument, voilà. On pensait je pense, voilà, profondément que le public s'approprie une œuvre quand on l'aide et quand notamment ils arrivent à la nommer. Or, c'est assez difficile de dire j'adore la symphonie 87 ou j'adore la 48 ou la 23, surtout dans un corpus de 106 symphonies. Et du coup, dans les 5 villes dans lesquelles on a joué cette symphonie, on a sollicité vraiment le public pour qu'il nous aide à trouver un titre à cette symphonie.
Donc par vote.
Par vote, absolument. Et c'était un procédé déjà très ancien, du 19e. Soit les éditeurs, soit les passionnés de musique donnaient des titres à des œuvres musicales. Et on est finalement tombé d'accord avec une proposition d'une habitante de Puteaux, si vous voulez tout savoir, qui a donné ce nom et qui pour moi correspond parfaitement.
L'impatiente, donc.
L'impatiente avec ce final et évidemment le premier mouvement qui ont des mouvements, c'est toujours des mouvements qui sont bourrés d'énergie et qui, voilà, qui sont pleins de vie.
C'est 6 symphonies parisiennes de Haydn qui étaient, on peut le dire, c'est un peu anachronique comme terme, mais des tubes de l'époque qu'on jouait partout à Paris.
C'était les tubes, c'est absolument. Ils étaient joués non seulement extrêmement régulièrement, alors on n'a pas l'habitude, mais c'est comme si on jouait le Requiem de Mozart 10 fois dans la saison de Radio France. C'est-à-dire qu'ils les jouaient extrêmement, de manière très récurrente, notamment au début du concert et à la fin du concert. Ouais. Ça ouvrait et ça terminait par une symphonie de Haydn.
Comme un petit jingle, un petit indicatif, mais ça durait 20-25
exactement,
minutes.
Exactement.
Pourquoi pas de projet d'intégrale d'ailleurs de ces 106 symphonies? Certains se lancent là-dedans, ils sont un peu fous.
Non, ils sont pas fous du tout. Ils sont bien heureux d'avoir des mécènes. Parce que ce n'est qu'une question d'argent.
Vous, les 6 symphonies parisiennes, et puis à chaque fois que les disques sortent, il y en a encore combien d'ailleurs à enregistrer?
Il y a encore 2 symphonies.
2 symphonies.
Qui vont être enregistrées le mois prochain et qui seront couplées pour une dernière sortie l'année prochaine, couplées à une œuvre sacrée de Joseph Haydn.
À chaque fois, il y a des couplages avec des compositeurs moins connus. On va en écouter un dans un instant. Haydn, c'est l'une de vos passions avouées.
Absolument. Haydn, je pense que on ne fera jamais assez pour relever, je trouve, ce compositeur, bien qu'il soit quand même beaucoup joué. Hein, j'en parlais récemment avec des spécialistes, mais on joue, je pense, plus de symphonies de Haydn que de symphonies de Mozart. On joue probablement plus de trios, de sonates pour piano de Haydn que celles de Mozart. Dans l'univers collectif et dans l'imaginaire des gens, Haydn est moins classifié. Et c'est une musique quand même qui est tellement, tellement spirituelle, tellement inventive, tellement orchestrée, tellement instrumentée que voilà, je pense qu'on ne fera jamais assez pour la mettre en valeur.
Donc il faut oser Haydn, c'est le titre de ce rendez-vous, ce festival, début novembre à Metz. La première édition, c'était à Paris l'année dernière. C'est vous qui avez conçu ce rendez-vous. Pourquoi oser Haydn?
Parce que justement, je pense que les programmateurs de concerts, les publics n'osent pas toujours Haydn, parce que c'est un nom parfois qui fait peur ou qui... Il y a des problèmes de remplissage de salles, hein, qui sont parfois évidents. Mais je pense que c'est une musique qu'on peut traduire, qu'on peut amener, qu'on peut présenter aussi au public. C'est, si on joue évidemment comme ça une suite de quatre mouvements, sans expliquer le contexte, le pourquoi, pourquoi un titre, pourquoi pas de titre, comment c'est écrit, quelles étaient les règles de l'époque, d'écriture, d'instrumentation, enfin, de parler vraiment de choses très concrètes, elles deviennent, ces œuvres, elles deviennent passionnantes.
Julien Chauvin est notre invité sur France Musique ce matin pour ce disque Haydn, 87e symphonie, baptisé en 2019 L'Impatiente. Et puis sur ce disque, il y a d'autres musiciens, notamment Antonio Sacchini.
Sacchini, absolument.
Extrait de Chimène, opéra d'Antonio Sacchini, c'était Sophie Carthauser, le concert de la loge, dirigé par notre invité Julien Chauvin. C'est sur ce disque qui vient de paraître chez Aparté, avec la 87e symphonie de Haydn, rebaptisée donc aujourd'hui L'Impatiente. Ce Chimène, ce Sacchini, c'est une redécouverte que vous avez faite assez récemment.
Oui, on avait monté l'opéra le Cid en, je sais plus, il y a 2-3 ans, mise en scène par Sandrine Anglade, et c'était une découverte totale, évidemment, parce que c'était l'occasion aussi de découvrir un répertoire qui le répertoire de la Comédie Française, en fait, c'était les pièces de théâtre qui n'avaient pas le droit de migrer vers la musique vocale, vers l'opéra, vers l'Académie Royale de Musique.
Pas le droit, c'était interdit.
C'était interdit. Chacun avait son répertoire et ses pièces. Et cette levée d'interdiction va permettre que Phèdre puisse être mise en musique par Le Moine et que ce Cid soit mis en musique par Sacchini avant de l'être, par Massenet au XIXe siècle.
Donc c'est quelques airs d'opéra que vous redécouvrez qui sont autour de ces symphonies. Comment vous faites les choix à chaque fois pour chaque disque ? Alors, qu'il y a des liens ?
Vraiment, à chaque symphonie, j'essaie d'associer un genre musical, surtout que ce soit la symphonie concertante ou le concerto pour piano, les airs en italien avec Sandrine Pio pour le premier volume, et puis là avec Sophie Kartheuser, évidemment l'idée c'était de rentrer dans la tragédie lyrique française avec des airs en français, et on sait qu'évidemment de nombreux airs étaient sortis des opéras pour être joués notamment au concert spirituel ou au concert de la loge olympique sous forme d'extraits des plus grands tubes de l'époque, parce que Sacchini c'est considéré comme quand même un des très grands compositeurs à l'époque, comme Vogel, comme Gretry, et le Cid en fait partie, bien sûr.
Julien Chauvin, vous passez beaucoup de temps dans les bibliothèques ?
On a la chance, en face de nos bureaux, qui sont situés rue Rameau, d'avoir la Bibliothèque Nationale de France.
Pratique.
Donc on traverse le square et on arrive évidemment dans ce sanctuaire où il y a des trésors extraordinaires. On a la chance aussi de pouvoir travailler avec Mathias Auclair, qui est le directeur du département de musique, donc et qui nous soutient énormément dans notre démarche de recherche, qui a d'ailleurs trouvé pour nous très récemment cette œuvre, cette symphonie de salon de Reicha. Mais c'est très important d'aller voir les sources, parce que les musiciens sont un petit peu bercés d'illusions avec les éditions modernes, c'est les nouvelles éditions qu'on appelle Urtexte, et on pense que la vérité est sur la partition imprimée sur un joli papier jaune, et en fait il n'en est rien. Ces éditions et ces éditeurs sont je trouve très peu scrupuleux, ces éditions deviennent ce que j'appelle des soupes, parce que ils mélangent tout, ils mélangent des versions de Londres, de Vienne, de Paris, et en fait on sait plus ce qu'on interprète. Je parle des symphonies parisiennes, mais du Stabat Mater de Haydn, du Requiem de Mozart. On a des mix européens, puisque à l'époque l'édition elle était partout en Europe, enfin surtout Londres, Vienne et Paris. Et c'est très important que les musiciens aillent vers ce retour aux sources, vers, quand il y a la possibilité, vers le manuscrit, mais les éditions d'époque, bien sûr.
Alors comment ça se passe? Vous allez à la Bibliothèque Nationale de France, on va venir à ce nouveau disque, vous en avez dit un mot, les symphonies de salon, Reicha et Beethoven. Beethoven, c'est son septuor de jeunesse. Vous découvrez une partition, vous allez la jouer à la bibliothèque, vous la lisez d'abord, vous faites la musique dans la tête et puis vous la jouez pour la première fois.
Oui, en effet, là, pour cette symphonie de salon, c'est vraiment un grand coup de chance. C'est-à-dire que il y a eu une donation il y a quelques années d'un fonds d'éditeur, Jaubert, qui avait des milliers de partitions. Et puis, vous savez, quand on reçoit des partitions, surtout à la BNF, je pense que ça arrive un peu souvent, et puis qu'on n'a pas le temps de traiter les camions entiers qui arrivent dans des cartons. Ça s'entasse, et puis tout d'un coup, il y a un chercheur qui va ouvrir un carton, et puis qui va trouver trois manuscrits dont parle Reicha dans son catalogue d'œuvres, trois grandes symphonies de salon, qui sont inédites évidemment au disque, qui sont inédites en partition, qui sont sous forme de manuscrits. Et donc, il se trouve que ce chercheur a fait appel à nous pour s'emparer un petit peu de ses œuvres. Et après les avoir lues sur papier, vous le disiez, il y a toujours quand même un grand risque quand on lit une partition sur papier, parce que même si on a une, je sais pas, il y a des chefs d'orchestre, des musiciens qui ont des oreilles et des yeux extraordinaires pour savoir si la musique est extraordinairement bonne, mais je pense que c'est toujours plus sage de pouvoir lire la musique. Donc on est allé déchiffrer cette symphonie avec des musiciens dans la salle de lecture de la bibliothèque sur les manuscrits, et on a passé une journée à déchiffrer ces pièces qui n'avaient pas été jouées depuis 1827.
Bien, ça commence comme ça, cette symphonie de salon de Reicha, grande symphonie de salon numéro 1 pour 9 instruments avec le concert de la loge, dirigé par Julien Chauvin. Julien, c'est un disque qui sort dans quelques jours, début novembre. Là, il y a cette musique, symphonie de salon. Alors, pour faire chic, on pourrait dire c'est un oxymore. Enfin, c'est paradoxal, symphonie de salon.
Oui, surtout que c'est grande symphonie de salon. Donc, on ne sait pas où placer ce genre. C'est plus que le Septuor de Beethoven. C'est plus que le Nocturne de Schubert. On est en 1825. Donc, les deux compositeurs viennois ont déjà écrit leurs œuvres de musique de chambre agrandie, et on est dans des sonorités cuivrées, boisées évidemment, où il y a un vrai jeu entre les cordes et les vents, avec un tas de d'influences musicales. On a du Rossini, on a du Beethoven évidemment. Et puis là, je trouve à l'écoute comme ça le matin, ça me fait vraiment penser à une ouverture d'opéra comique. Je sais pas, de Dalayrac, de Grétry ou de Johann Christian Bach. C'est-à-dire qu'on est un peu plongé dans, je veux pas dire dans le noir, mais on imagine tout à fait une scénographie pour cette musique qui semble un peu vide, comme ça.
C'est un opéra imaginaire. Vous avez cité Beethoven, ils se sont connus, Reicha et Beethoven, oui, nés la même année, oui, à Bonn. C'est donc l'idée de ce couplage, parce que le Septuor de jeunesse avec lequel on va se quitter de Beethoven, c'est une symphonie de salon aussi, d'une
certaine façon. C'est une symphonie, absolument, oui, c'est une symphonie de salon.
C'est plus que de la musique de chambre, pas encore de l'orchestre.
Exactement, c'est un essai. Le problème, c'est que c'est une pièce qui a tellement marché au niveau public et au niveau de l'édition, que ça n'a pas pas finalement plus tant que ça à Beethoven, lui qui pensait que c'était une œuvre un peu de divertissement. Il était pas dans la facilité, Beethoven. Donc c'est pourtant l'œuvre chez lui qui a marché le plus.
Il y a une anecdote incroyable qui est citée dans le livret de ce disque qui paraît début novembre, Reicha et Beethoven. Je me permets de finir avec. C'est l'autobiographie de Reicha. Beethoven exécutait à la cour un concert de Mozart sur le piano. Il me prit, c'est donc Reicha qui parle, il me prit de lui tourner les feuilles. Les cordes du piano cassent à tout moment, sautent en l'air, les marteaux s'embarrassent entre les cordes cassées et Beethoven veut à toute force terminer son morceau. Il me prit donc de dégager les marteaux à mesure qu'il s'arrêtait et d'enlever les cordes cassées pour parvenir à tout. J'avais plus à faire que lui car il m'a fallu tourner autour du piano pendant tout le morceau. C'est incroyable cette histoire. Vous pensez que c'est vrai?
C'est absolument vrai. Ça, j'imagine. Et puis quand je vois les pianos,
c'est une scène de film.
Ah, mais oui, mais c'était. Ils arrivaient. Bon, Beethoven, évidemment, c'est les limites de l'instrument qu'il veut pointer du doigt. Et quand on voit les pianos viennois de ces années-là, hein, on est 1810, 1815, c'est des pianos quand même assez rudimentaires. Donc, on imagine très bien la fougue sur ces pianos. Maintenant, c'est des pianos qu'on joue d'une manière tellement polie, tellement raffiné, mais on a totalement perdu ce sens.
Et en même temps, c'est très symbolique que Beethoven casse le piano et Reicha essaye de réparer les marteaux.
Voilà, c'est un peu ça, c'est l'histoire de leur vie.
Scherzo du Septuor, opus 20 de Beethoven, cet extrait de ce disque aparté qui paraîtra début novembre également, Julien Chauvin, Osé Haydn, festival à la Cité Musicale de Metz, et du 6 au 9 novembre, et puis ce disque... 87e symphonie de Haydn, L'Impatiente, c'est son nouveau nom en 2019, à retrouver également chez Aparté. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Jean-Baptiste.
Et à bientôt, Julien.
À réécouter sur francemusique.fr.